le magazine des Nations Unies.
L'UACR relocalise 1200 réfugiés sud-soudanais de la frontière au site de Biringi en Ituri. Cette opération vise à protéger les réfugiés et leur assurer un minimum de conditions de vie. Enjeux et difficultés de l'opération avec le porte-parole adjoint du UACR qui sera notre invité. Et puis il faut 1,65 milliard de dollars américains pour fournir une assistance à 9 millions de personnes en République démocratique du Congo. La directrice exécutive de l'UNICEF et le chef humanitaire en séjour dans ce pays ont souligné toute l'importance de soutenir les interventions humanitaires et surtout la riposte contre Ebola. Enfin, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, c'est aujourd'hui dimanche 24 mars. En RDC, le programme national de lutte contre cette maladie met l'accent sur de nouvelles stratégies et innovations dans la prise en charge des malades. Voici tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. Comme nous l'avions annoncé dans notre précédent numéro, la chef de la MONUSCO a pris la parole lundi dernier devant les membres du Conseil de sécurité à New York. Leyla Zerougui a salué la libération des prisonniers politiques et d'opinion, conformément à la promesse du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, pour décrisper la situation politique. Elle estime que cela indique la fragilité du processus politique congolais.
Les réactions de certains partis politiques et de leurs partisans aux résultats des élections sénatoriales de la semaine dernière nous interpelle et révèle la fragilité du processus politique en cours dans le pays. Lors de ses premières interventions publiques, le chef de l'État s'est engagé à travailler pour la consolidation de la paix, de l'État de droit et de la démocratie et la promotion et la protection des droits de l'homme. Ces déclarations d'intention ont été suivies d'actes concrets, surtout en matière de décrispation. Certains prisonniers politiques et d'opinion viennent d'être libérés. Les réunions tenues sur l'ensemble du territoire par l'opposant et candidat à la présidentielle, Martin Fayoulou, se déroulent sans entrave et des annonces ont été faites en faveur du retour des exilés politiques. Il est important de poursuivre dans cette direction, notamment en maintenant des espaces d'expression pour l'opposition que nous encourageons à travailler étroitement avec l'ensemble des partis politiques, les autorités congolaise et la société civile.
Sur le plan sécuritaire, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a réitéré son engagement à poursuivre sa mission de bons offices. Elle a par ailleurs évoqué un autre défi actuel qui guette le gouvernement, c'est celui de la réintégration des ex-combattants à travers le pays. Madame Zerougui, dans cet extrait choisi par la radio des Nations Unies.
Je peux vous assurer, Monsieur le Président, que je continue de prendre à cœur la mission de bons offices que vous m'aviez confié afin d'accompagner cette transition politique et faire ainsi avancer l'agenda de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Il existe aujourd'hui de réelles opportunités de consolider la paix et la sécurité dans plusieurs provinces du pays suite à la reddition volontaire de centaines de combattants de groupes armés ou au souhait exprimé de le faire à la faveur du changement de pouvoir présidentiel. Un des autres défis actuels sera de pouvoir saisir à temps ces opportunités en identifiant rapidement des options de réintégration de ces ex-combattants au sein de leur communauté. La tâche ne sera pas facile, mais il est urgent d'agir ensemble, ici sur le terrain et dans les capitales, afin d'apporter un soutien qualitatif aux autorités congolaises.
Pour sa part, l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies, Ignace Gata Mavita, a appelé le Conseil de sécurité à privilégier dans la nouvelle résolution prorogeant le mandat de la MONUSCO le changement des stratégies dans la lutte contre les groupes armés qui écument la partie orientale de la République démocratique du Congo. Autre chose, la réponse à la tuberculose en RDC est soutenue par le Programme national de lutte contre la tuberculose qui met en œuvre de nouvelles stratégies et innovations internationalement reconnues, ce qu'a reconnu le docteur Teto. Point focal Lassmann, gestionnaire du projet TB au programme national de lutte contre la tuberculose. Il est au micro de Denise Bidingabou.
La matinée scientifique est organisée pour apporter un plus, informer l'opinion sur les innovations ainsi que les résultats que le programme est en train de mener et il est en train d'apporter au sein de la population en général, particulièrement sur le plan mondial. Premier moyen d'accès au traitement, nous disions que le traitement est gratuit. Et nous invitons à tout le monde, tout celui qui a les symptômes ou les signes liés à la tuberculose, de se rendre à l'hôpital le plus proche ou au centre de santé le plus proche pour se faire dépister. Une fois dépisté, je pense que le traitement est gratuit durant toute la durée de son traitement. Avec le moyen que le programme met en place pour le dépistage, où vous avez la nouvelle technologie sur le Gene Expert, vous avez le microscope, plusieurs autres innovations qui permettent à ce que la détection de la tuberculose soit effective.
La République démocratique du Congo est confrontée à l'une des crises humanitaires les plus importantes et les plus complexes au monde. Il a besoin d'un soutien financier rapide et durable pour venir en aide aux personnes vulnérables. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré jeudi la directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore, et le chef de l'humanitaire de l'ONU, Marc Lecoq. Le plan d'intervention humanitaire de 2019 pour la RDC nécessite 1,65 milliard de dollars américains pour fournir une assistance à 9 millions de personnes. Les détails avec Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Nonobstant des progrès réalisés ces dernières années dans certaines régions de la RDC, notamment en réduisant le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans et en scolarisant de plus en plus d'enfants, la situation humanitaire globale reste alarmante. Le nombre de personnes confrontées à la faim est passé de 7,7 millions en 2017 à 13 millions l'an dernier. Au moins 4 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Le choléra, la rougeole et Ebola continuent de faire de nombreuses victimes. La malnutrition aiguë sévère devrait toucher 1,4 million d'enfants de moins de 5 ans cette année et les exposer à un risque de décès imminent, a déclaré Madame Fore. Dans les régions du pays touchées par un conflit, des enfants et des jeunes ont été recrutés en tant que combattants, agressés sexuellement et privés des services d'éducation, de santé et de protection. Ensemble, la communauté internationale et le nouveau gouvernement peuvent et devraient faire mieux pour les enfants, a-t-elle conclu.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé du 20 au 21 mars dernier un atelier de formation des membres du Comité interministériel des droits de l'homme et ceux de la Commission nationale des droits de l'homme sur la saisine des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. Raphaël René Yo-Fils, responsable au BCNUDH, parle de l'importance et des enjeux de cette rencontre. Il s'entretient ici avec Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Monsieur Raphaël René Yo-Fils, bonjour.
Bonjour au KP.
On vient d'assister à l'atelier de renforcement des capacités des membres de la Commission nationale des droits de l'homme sur la saisine des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. Le bureau conjoint a effectivement été à la conduite aussi de ces travaux. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il a été question et quelles sont les principales résolutions qui ont été prises?
Merci pour cette opportunité. Nous avons constaté qu'il y avait un besoin effectivement de renforcement de capacités, non seulement des membres de la CNDH, mais également, la CNDH c'est la Commission nationale des droits de l'homme, mais également des membres du comité interministériel des droits de l'homme, donc un besoin de renforcement de leurs capacités s'agissant des mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. Donc cet atelier nous a permis de les sensibiliser sur les mécanismes internationaux d'abord, qui sont des mécanismes conventionnels, donc qui dérivent des traités et conventions, et des mécanismes non conventionnels, donc qui dérivent du Conseil des droits de l'homme, qui sont créés par le Conseil des droits de l'homme. Vous avez les procédures spéciales, l'examen périodique universel. Nous avons également parlé des mécanismes régionaux, qui sont des mécanismes de la Commission africaine des droits de l'homme. Et nous avons également parlé des mécanismes nationaux, au rang desquels vous avez la constitution de la RDC, vous avez le comité interministériel, un de ces mécanismes, dont l'idée c'était de leur montrer comment est-ce qu'en cascade, du niveau international jusqu'au niveau national, on a ces mécanismes qui protègent les droits de l'homme et comment ils peuvent interagir avec ces mécanismes. Nous avons un atelier similaire également, parce que, comme vous le savez, le bureau conjoint travaille sur l'approche fondée sur les droits humains. Donc, si nous faisons une formation en direction de ce que nous appelons les détenteurs d'obligation dans les autorités étatiques, nous devons également organiser une formation pour les titulaires de droit. Et donc nous avons une formation similaire qui va être organisée les 26, 27 et 28.
Raphaël, revenons à cet atelier. Quels sont les mécanismes qui vont vous permettre de comprendre que cette matière a été assimilée, c'est-à-dire que le renforcement des capacités a été réel dans les chefs des participants.
Disons que cette interaction existe déjà. Donc la CNDH, donc la Commission nationale des droits de l'homme, traite avec les organes de traité. Elle est en contact avec les procédures spéciales. Le comité interministériel des droits de l'homme dont nous parlons ici, et dont les membres sont dans la salle pour cette formation également, c'est un mécanisme qui a été créé pour faciliter la préparation, la rédaction des rapports nationaux de la RDC. Donc ce comité également est en charge du suivi des recommandations. Donc ce que nous voulions faire à travers cet atelier, c'était d'expliquer plus en détail comment est-ce que ce soit la CNDH ou le CIDH, comment est-ce qu'ils peuvent interagir davantage avec ces mécanismes existants. Donc nous sommes allés en profondeur dans les questions que nous avons abordées. Nous avons eu 3 journées. Nous avons choisi d'avoir une journée spéciale consacrée aux organes de traité, d'avoir une journée spéciale consacrée aux mécanismes du Conseil des droits de l'homme, donc sur l'examen périodique universel, également sur les procédures spéciales. Nous avons eu la 3e journée, donc celle d'aujourd'hui, qui est consacrée à l'examen périodique universel. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment allés en profondeur dans ces questions. L'une des choses sur lesquelles nous avons voulu insister également, c'est le suivi des recommandations. Vous savez que les organes de traité et l'examen périodique universel adresse au pays des recommandations qui sont censées contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Et nous avons beaucoup insisté auprès des participants pour un meilleur suivi des recommandations. Parce que si les recommandations qui sont faites ne sont pas mises en œuvre, ça veut dire qu'on ne fait rien. Et ça veut dire que la situation ne change pas.
Mais il faut dire aussi que là, le bureau conjoint a un rôle à jouer dans le suivi, accompagné dans le sens du suivi, ces recommandations et que ces participants puissent s'approprier tous les rudiments qu'ils viennent d'apprendre.
Le bureau conjoint joue son rôle de soutien et d'appui, n'est-ce pas, aux autorités pour le suivi des recommandations. La fonction première de suivi des recommandations revient à l'État.
L'État congolais.
Et l'État peut être assisté dans cette mission des ONG, donc la société civile en général, et le bureau conjoint a toujours apporté son appui par rapport au suivi des recommandations. Le bureau conjoint a appuyé, par exemple, l'élaboration d'un plan, d'un tableau conjoint des recommandations, non seulement des organes de traité, mais également de l'EPU, un même périodique universel, tout cela dans un seul et même document. Donc ce document est prêt aujourd'hui. Maintenant, il s'agit pour la RDC de valider ce tableau de recommandations et d'élaborer un plan de mise en œuvre de recommandations. Donc ce plan de mise en œuvre de recommandations est essentiel parce qu'il permettra à la RDC de savoir quelles recommandations adresser à quel ministère ou à quelle entité de ce pays pour sa mise en œuvre. Donc ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est très important que cet exercice soit fait parce que si les recommandations sont mises en œuvre, comme je viens de le dire, la mise en œuvre contribue à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans un pays. Donc il est hors de question, et ce n'est pas conseillé, de recevoir des recommandations pour lesquelles on n'élabore pas un plan de mise en œuvre.
Monsieur Raphaël, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Nous partirons de la Haye où la CPI annonce le retrait des Philippines du statut de Rome le 17 mars dernier. Le président de l'Assemblée des États partis, le Coréen Oh Gon-kwon, regrette ce retrait. L'Assemblée des États partis, comprenant plus de 120 États de toutes les régions du monde, est pleinement attachée au mandat de la Cour, aidée à mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale. J'espère sincèrement que le retrait des Philippines au statut de Rome n'est que temporaire et qu'il rejoindra la famille du statut de Rome dans le futur, déclare le président Kwon. Ici au pays, l'ONG internationale Médecins sans frontières Suisse suspend momentanément ses activités de riposte contre Ebola dans le territoire de Mambasa. C'est le chef de la collectivité des Basila Babombi, Selemani Binda, qui l'a annoncé mardi dernier. Un responsable de MSF justifie ce retrait pour des raisons sécuritaires. Le député provincial Omer Kaindo, élu de Mambasa, fait état des tracts annonçant une probable attaque des installations de MSF à Biakato. Il appelle ainsi les autorités à sécuriser la région et encourager ainsi MSF à y retourner. Enfin, évolution de la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola au nord Kivu et en Ituri. Dans un communiqué rendu public lundi, le ministère de la Santé rapporte 9 nouveaux cas confirmés, dont 3 à Katoa, 2 à Vuovi, 2 à Masereka, un à Kialunguta et un autre à Butembo, toujours Nord Kivu. 5 nouveaux décès de cas confirmés sont également signalés, dont 4 décès communautaires, 3 à Katwa et 1 à Kialunguta. Un autre décès au centre de traitement Ebola à Butembo. Le ministre de la Santé annonce que 112 cas suspects sont en cours d'investigation et précise que depuis le début de l'épidémie Ebola au Nord Kivu et dans l'Ituri, le cumul des cas à ce jour est de 960, dont 895 confirmés et 65 probables pour un total de 603 décès, parmi lesquels 538 confirmés et 65 probables, ainsi que 314 personnes guéries.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité de ce jour est Luboukou Simon Englebert, porte-parole adjoint au OACR. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés procède depuis quelques jours à la relocalisation des réfugiés sud-soudanais de la frontière au site de Biringi, à 80 km de Haru en Ituri. Comment procède-t-il et quels sont les défis de cette opération? Luboukou Simon s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Luboukou Simon Englebert, bonjour.
Bonjour.
Le OACR relocalise les réfugiés sud-soudanais de la frontière à Biringi. Biringi, c'est à 80 km d'Arou. Nous sommes là en Ituri. Alors, comment se passe l'opération sur le terrain?
C'est depuis mi-février 2019 que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, appuie le gouvernement congolais dans cette opération de relocalisation des réfugiés sud-soudanais qui se trouvent au niveau de la frontière entre le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri. À ce jour, plus de 1200 réfugiés sud-soudanais ont été relocalisés sur le site de Biringi. Il faut dire que cette opération se fait à la demande des réfugiés qui ont exprimé le souhait de se trouver dans une zone où ils seront plus en sécurité et où ils vont retrouver des parents et des connaissances. Il faut dire qu'il y a ceux qui sont déjà au niveau de Biringi depuis longtemps. Se retrouver dans une zone où ils ont une certaine garantie de stabilité et d'assistance. Le HCR assiste les réfugiés au niveau de ce site. Avant d'organiser le transfert, il y a une équipe avec les services étatiques, la DGM, l'ANR, la police et les FRDC qui travaillent avec les chefs de la chefferie Kakwa pour procéder au screening sécuritaire, c'est-à-dire s'assurer que les sites sont des sites civils. Et après screening, les réfugiés sont transportés au niveau de Haro, là où nous avons un centre de transit, pour leur enregistrement. Et c'est seulement après qu'ils vont au niveau du site de Biri.
Vous avez dit tout à l'heure que cette opération de relocalisation s'est faite à la demande des réfugiés eux-mêmes. Mais selon le rapporteur de Radio Capi qui s'est rendu sur le lieu, sur 30 000 réfugiés sud-soudanais, seuls 20% acceptent cette relocalisation. Comment vous pouvez expliquer cette réticence des réfugiés?
Bon, avant d'arriver là, il faut souligner ici que l'opération de relocalisation continue. Chaque semaine, environ 150 réfugiés expriment ce souhait, cette volonté d'être relocalisé à Biringi. À Biringi, le HCR et les autorités proposent une assistance qui permet en fait aux réfugiés et à la communauté locale d'accéder aux services de base. Il y a parmi les réfugiés sud-soudanais ceux qui sont arrivés en 2016 et qui se sont installés de manière spontanée dans la zone nord de la frontière de l'Ituri.
C'est ceux qui résistent en fait.
Ceux-là se sont installés contre la volonté du gouvernement congolais. Et je ne dirais qu'ils résistent, je dirais plutôt qu'ils hésitent. Ils hésitent encore à être relocalisés sur le site de Biringi. Il y a plusieurs raisons. Certains évoquent des facteurs historiques ou culturels. Il y a ceux qui ont trouvé à partir des interventions de certains partenaires de quoi s'installer au niveau de cette frontière. Bon, par rapport aux chiffres, laissons l'opération se poursuivre et nous verrons à la fin quels seront les chiffres de ceux qui acceptent de partir et ceux qui vont rester au niveau de la frontière.
Quelles sont les difficultés que les ACR rencontre actuellement pour la prise en charge de ces réfugiés, notamment des sites de Biringi, vous l'avez dit, et comment il essaye de résoudre ces difficultés-là?
Les difficultés d'abord pour organiser la relocalisation, c'est-à-dire il fallait d'abord sensibiliser les réfugiés pour qu'ils acceptent et adhèrent à cela. Et puis il y a le problème des distances. Les réfugiés vivent dans plusieurs localités qui sont très très éloignées les unes des autres. Alors pour contrer la difficulté de sensibilisation, les autorités congolaises congolaise avec les chefs traditionnels ont organisé des campagnes de sensibilisation. Les réfugiés puissent avoir l'information. Et puis, le 4 février, il y a eu une visite GoNC pour permettre aux réfugiés...
GoNC, c'est quoi?
GoNC, c'est ce que je vais expliquer. Permettre aux réfugiés d'aller et de
c'est
voir.
En anglais, hein?
Donc, on traduirait partir et voir. Donc, ça permet aux réfugiés d'aller et de voir la vie sur les sites de Biringi et de prendre une décision par rapport à ce qu'ils ont vu sur place. Et il faut dire que c'était une satisfaction totale pour les réfugiés et pour ceux qui les ont accompagnés, les autorités, notamment les autorités traditionnelles. Quant à la difficulté de distance au niveau du HCR, nous avons essayé d'avoir un point de rassemblement au niveau de Dubaï, là où les réfugiés sont rassemblés avant de les emmener au centre de transit à Arou.
Et comment se fait alors la distribution des rations alimentaires?
Bon, il faut dire que au niveau du centre de transit, on distribue des repas chauds.
Des repas chauds.
Oui, ce sont des repas préparés et qu'on donne aux réfugiés en attendant qu'ils puissent aller au niveau du site de Biringi. Une difficulté, c'est le ravitaillement, l'approvisionnement. C'est pas facile avec l'état des routes de pouvoir avoir tout le temps la quantité suffisante pour les réfugiés, mais on essaie de faire de notre mieux pour les servir.
Mais il y a aussi des intempéries. Est-ce que vous avez de ces côtés-là aussi des non-vivres, donc les couvertures que vous avez par exemple disposées pour les réfugiés?
Comme je disais, bon, les intempéries ne facilitent pas avec la situation des routes. Ça complique un peu. Les non-vivres, les articles essentiels, il n'y a pas que les couvertures, il y a les ustensiles de cuisine, il y a les nattes, les couvertures, et autre chose. Tout ça, on essaye de donner aux réfugiés. Il faut dire que ça fait partie des défis à relever. Il y a les vivres, il y a les articles ménagers les articles ménagers essentiels qu'il faut mettre à la disposition des réfugiés. Il y a les abris. Ils sont dans des abris communautaires. C'est après qu'ils construisent les abris familiaux. Il y a des problèmes de construction d'infrastructures. Il faut des latrines, il faut des douches.
De l'eau potable.
Il faut de l'eau. Ça aussi, c'est un autre grand problème. Il faut avoir des points d'eau pour que les réfugiés, ainsi que la communauté qui les accueille, puissent avoir l'eau potable.
Englebert, pour terminer, est-ce qu'il y a des réfugiés qui sont reçus dans des familles d'accueil?
Ici, nous parlons de sites. On ne parle pas de camps, c'est-à-dire que les réfugiés vivent ensemble avec la communauté hôte.
Comment se passe alors la cohabitation?
Bon, il faut dire que l'environnement est favorable. Les réfugiés et les autochtones n'ont pas de problème. Ils vivent ensemble. Il y a même des projets qui pourront les mettre ensemble pour le développement des deux communautés.
Je rappelle à nos auditeurs que nous venons de recevoir M. Luboukou Simon Englebert. Il est porte-parole adjoint au ACER et Englebert. Je vous remercie.
Merci à vous et à Radio Okapi.
La section des affaires politiques, en collaboration avec la section électorale et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, de la MONUSCO, Béni, a organisé ce lundi 18 mars à Béni une rencontre pour des élections apaisées avec des membres et candidats de plateformes électorales FCC, CASH et Lamouka en ville de Béni. Suivez l'avis de cette participante à cet atelier au micro de Sekumbi Katondolo.
Je pense que ça peut nous aider en ville de Béni au début de notre campagne. Je pense que par rapport à cette formation, on aura à acquérir de bonnes formations qui vont nous aider à terminer notre campagne sans problème, sans difficulté. Et jusqu'à ce qu'on va recevoir les résultats, nous serons quand même bien préparés par rapport à cet effet. C'est la femme actuelle en vie de Béni, elle est déjà formée par rapport à notre processus électoral de l'année 2019. Je pense qu'on est dans l'élite et je pense que aussi par rapport à tout ce qu'on vient de nous dire, nous serons aussi candidates au niveau du Sénat. Et par rapport aussi à notre situation actuelle, on est fort par rapport à notre intelligence, messieurs les journalistes.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
De quel soutien la RDC peut-elle attendre de la MONUSCO dans les jours à venir? Écoutez la question, mais aussi la réponse de la porte-parole de la MONUSCO. C'était au cours de la conférence de presse des Nations Unies du 13 mars dernier.
C'est venant vous dire ça, je suis de la RDC. Sauf inattention de ma part, Madame Leïla Zerougui, lors de sa première rencontre avec le nouveau chef de l'État, l'avait dit, avait promis un soutien au gouvernement congolais. Monsieur Antonio Guterres l'avait également dit lors du sommet d'Addis Abeba, au sorti de l'audience qu'il avait accordée au nouveau chef de l'État. De quel soutien sera-t-il question cette fois-ci, connaissant les besoins énormes de notre pays, surtout les défis auxquels on doit faire face? Certainement, ça doit être financier.
Madame Zerougui a rencontré maintenant, au moment où on se parle, à trois reprises, le président Tshisekedi. Donc, ils ont eu l'occasion, lors de ces trois rencontres, d'évoquer à la fois les sujets d'actualité, le processus électoral qui est toujours en cours, j'y ai fait référence, les groupes armés qui souhaitent déposer les armes, mais aussi la configuration actuelle et future de la MONUSCO. Donc j'en reviens aussi aux discussions qui sont actuellement en cours à New York entre toutes les parties prenantes, donc je l'ai dit, les autorités congolaises, le Conseil de sécurité, le secrétariat de l'ONU, pour justement définir quel sera le prochain mandat de la MONUSCO et quel sera donc le soutien que la MONUSCO apportera, continuera à apporter dans les mois qui viennent au gouvernement congolais. Mais on a déjà des pistes par rapport à cette question qui nous tient vraiment à cœur, qui est celle des groupes armés qui, dans certaines provinces du pays, ont souhaité rendre leurs armes. C'est un processus que nous souhaiterions accompagner. Nous souhaiterions accompagner les autorités congolaises pour pouvoir faciliter la réintégration de ces ex-combattants dans leur communauté. Et nous l'avons fait savoir aux autorités congolaises.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Pour votre agenda, ce dimanche 24 mars, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Et ce lundi 25 mars, c'est la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite. C'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama. Mise en onde par Bob Lindou, à la réalisation, coordination et reportage, Jean-Pierre Elali Coco, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ciao, à très bientôt.